qu'est-ce que Jésus a bien pu faire dans sa vie et dire à ses 12 disciples pour que 2000 ans plus tard, le mouvement spirituel qu'il a lancé se soit répandu quasiment partout dans le monde. Ce Jésus qui a été pourtant rejeté dès son enfance et jusqu'à la croix, crucifié, mis à mort comme un brigand, qui venait d'une région si peu influente du monde. Il a grandi en Galilée. Qu'est-ce que ce Jésus a bien pu faire dans sa vie et dire à ses 12 disciples pour qu'ils soient prêts à perdre leur vie pour répandre le message de la bonne nouvelle que Jésus annonçait? Vous êtes déjà posé cette question? C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin dans un texte qui clôture l'évangile selon Matthieu. On va entendre certaines des dernières paroles de Jésus à ses disciples, des paroles qui ont littéralement changé la trajectoire de leur vie, des paroles qui peuvent changer aussi la trajectoire de nos vies, la trajectoire de ma vie, de ta vie. Lisons ensemble dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 28, les versets 18 à 20. Matthieu 28, versets 16 à 20. Et je vais prier avant qu'on lise ce texte. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes un cœur pour ta parole. Nous désirons entendre ta voix ce matin. On te prie, Seigneur, que tu puisses aussi nous donner une parole pour notre cœur. Seigneur, parle par ta parole. Amen. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On est à la toute fin ici de l'évangile selon Matthieu, au moment culminant de la vie de Jésus. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de regarder seulement les 5 dernières minutes d'un film sans avoir vu le début? Ça vous est déjà arrivé? Si on est honnête entre nous, des fois on zappe un peu sur les chaînes, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va regarder et puis on tombe sur la fin d'un film et on regarde la fin. Mais si on n'a pas vu le début, c'est un peu difficile de comprendre ce qui se passe. Alors peut-être vous êtes assez fort, en quelques minutes vous arrivez à comprendre ce qui s'est passé, mais si vous n'avez pas vécu le début du film, vous n'allez pas comprendre vraiment l'intensité de l'intrigue et le dénouement et toute la tension qui peut se trouver ici, dans l'histoire. Ici, le passage que l'on vient de lire se trouve à la fin de l'évangile selon Matthieu. Alors s'il vous plaît, laissez-moi juste quelques minutes pour retourner ensemble dans cet évangile, voir l'intrigue, la tension qu'il y avait dans le récit qui nous amène à ce moment culminant de la vie de Jésus et aussi de celle de ses disciples. Matthieu était un des 12 disciples. Cela veut dire qu'il a passé 3 années de sa vie auprès du Seigneur Jésus, à marcher près de lui, à manger avec lui, à parler avec lui, poser des questions, l'entendre faire ses discours. Et il nous raconte dans son évangile le récit vraiment palpitant de la vie de Jésus. Il commence par la généalogie de Jésus. Qu'est-ce qu'on a vraiment à faire d'une généalogie? Mais David, il veut commencer, Matthieu, en commençant par la généalogie, en disant « Il est issu de la famille de David !» C'est qui David? Un grand roi d'Israël. Il vient d'une lignée royale, mais aussi il est issu de la descendance d'Abraham, le patriarche de tout le peuple d'Israël, à qui Dieu a fait une promesse, qu'au travers de sa descendance, Dieu se ferait un peuple de toutes les nations. S'ensuit la naissance miraculeuse de Jésus, porteuse de tant de promesses faites des siècles avant même sa venue au monde. Matthieu nous présente Jésus comme l'enfant de la promesse, dont les prophètes comme Ésaïe, dont on a lu un passage ce matin, ont parlé des siècles auparavant. Il nous le dit dans Matthieu chapitre 1, verset 23. Il cite Ésaïe chapitre 7 et 8. « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel. » Ce qui veut dire « Dieu, Dieu avec nous. » Et donc, dans l'évangile de Matthieu, on voit peu à peu comment toutes les promesses faites depuis des siècles se réalisent une par une dans la vie de ce Jésus de Galilée. Jésus présenté comme le nouveau David, le vrai roi dont le royaume sera vraiment éternel. Jésus comme le nouveau Israël, car dans sa vie il va réussir partout où le peuple d'Israël avait échoué. Tout petit, il sera sauvé du massacre des enfants par le roi Hérode, à l'image du pharaon et de ce qui s'était passé en Égypte. Il devra fuir lui-même en Égypte avec ses parents, d'où il sortira. Par son baptême, ensuite, il nous rappelle la sortie d'Égypte au travers des eaux de la mer Rouge. Jésus est ensuite tenté pendant 40 jours dans le désert par le diable. Mais à l'inverse du peuple d'Israël qui a passé 40 ans dans le désert et qui est tombé dans la désobéissance, Jésus ne faillit pas, ne tombe pas dans la tentation, dans ses 40 jours dans le désert. On voit même quelque part qu'il a médité sur l'histoire du peuple d'Israël, parce que quand le tentateur vient, le tenter à trois reprises, il cite le livre de Deutéronome, qui nous parle de l'histoire d'Israël. Jésus a réussi partout où le peuple a échoué. En sortant de la tentation vainqueur, Jésus est ensuite présenté comme le nouveau Moïse. Moïse qui était monté sur une montagne, sur le mont Sinaï, qui avait rapporté ensuite les 10 commandements de la loi au peuple. Jésus monte sur une colline et proclame son célèbre sermon sur la montagne. Il y partage les lois du royaume des cieux, qui se résument par l'amour de Dieu et l'amour des autres, Matthieu chapitre 5 à 7. Quelle intrigue! Jésus, là, ce petit bébé, le nouveau David, le nouveau Israël, le nouveau Moïse, et on en passe encore, hein, le nouveau serviteur souffrant dont on a lu ce matin dans le prophète Ésaïe, ou le fils de l'homme promis dans le livre de Daniel des siècles auparavant. Vous voyez comment dans l'évangile selon Matthieu, qui arrive ici à sa conclusion, peu à peu, à force de citer des promesses de l'Ancien Testament et montrer l'accomplissement de la vie de Jésus dans sa vie, le voile se lève peu à peu et on commence à découvrir qui est vraiment ce Jésus, qui est vraiment Jésus et son identité. Il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Il est venu sauver le peuple de ses péchés. Jésus, dont lui-même le nom veut dire « Dieu sauve ». Il est l'Emmanuel promis. Jésus-Christ, écoutez bien, est Dieu avec nous. On se retrouve donc ici au moment culminant de la vie de Jésus. Vous imaginez la tension dans la vie des disciples qui ont vu tout cela peu à peu, ne comprenaient pas tout de suite. Mais au chapitre 27, Jésus est mort. Il est mort. Porteur de tant de promesses, il est mort. C'est fini. C'est terminé. Il est dans le tombeau, gardé par la garde romaine. Mais voilà le troisième jour. Les femmes se rendent au tombeau. Peut-être on connaît l'histoire, mais laissez-moi vous la raconter, parce que si on n'est pas dans l'histoire, on n'arrivera pas à comprendre ce texte de Matthieu 28. Le tombeau est vide. Plus que cela même, Jésus apparaît vivant devant les femmes. Et il leur dit, au début du chapitre 28, de parler aux apôtres et de leur donner rendez-vous sur une colline en Galilée. Là où toute leur histoire avait commencé, là où la trajectoire de leur vie et des nôtres ont changé, là où le mouvement spirituel de Jésus va se répandre dans le monde entier. Nous voilà maintenant à Matthieu 28, verset 16. Cette tension est là. Le rendez-vous est important pour les disciples. Ils ont rendez-vous sur cette montagne avec le roi ressuscité. Premièrement, nous allons voir dans ce texte l'autorité de Jésus. Matthieu 28, versets 16 et 17. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Les 11 disciples, qui ne sont plus que 11 maintenant, parce que l'un des leurs, Judas, a trahi Jésus et s'est ensuite malheureusement donné la mort. Ici, Matthieu nous rappelle qu'ils sont 11, comme pour nous rappeler aussi les événements qui viennent de se passer. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Littéralement, ils se prosternèrent devant Jésus. Tout comme les femmes adorèrent Jésus quand elles l'ont vu ressusciter dans le jardin près du tombeau. Les 11 se prosternent également, car il est maintenant le Messie pleinement révélé aux yeux des disciples. Il vient de vaincre la mort. Il était mort. Ok, d'accord, on connaît l'histoire. Mais eux, ils l'ont vu mort. Ils savaient que Jésus n'avait pas joué, n'avait pas triché, n'avait pas fait une fausse mort, il est tombé dans les pommes et il s'est réveillé après. Ils l'ont vu littéralement sur la croix, dans le tombeau, mort. Et là, il se présente vivant devant eux. La seule attitude convenable est de se prosterner devant lui et de l'adorer. Mais quelques-uns eurent des doutes, nous dit le texte. Certains, on n'est pas sûr si ce sont les 11 ou d'autres qui étaient certainement présents aussi, quelque part sur cette colline, ont eu des doutes et ici en tout cas, ils ont hésité. C'est le sens de ce mot doute. La traduction du semeur nous dit « ils ne surent que penser ». Ils ont hésité à savoir quelle attitude avoir. Ils ne savaient que faire. Comment réagir devant leur maître maintenant vivant ? Ne soyons pas trop durs avec eux. Imaginons que nous, on voit le maître mort sur la croix et mort dans le tombeau. Et 3 jours plus tard, il est vivant là, devant nous sur la colline. Le moment est intense. D'ailleurs, je crois même que le fait qu'on nous dise, que Matthieu nous rapporte, que certains ont hésité, nous montre l'intensité pour les disciples de ce moment-là. Ce n'est pas un rendez-vous. Vous savez, comme si on rencontre quelqu'un qu'on a l'habitude de voir. Pourtant, ils ont vécu 3 ans avec lui. Ici, c'est un moment important. Ce n'est pas n'importe qui est devant eux. Ils le comprennent et ils se prosternent. Jésus, devant eux, est ressuscité. Il n'y aurait pas de Messie, pas d'Évangile, pas de bonne nouvelle, pas de mission, s'il n'y avait pas eu la résurrection de Jésus-Christ, s'il n'avait pas vaincu la mort et s'il n'était pas vivant encore aujourd'hui. Les disciples se sont prosternés. C'est une première marque sur l'identité de Jésus. Ça nous montre l'étendue de son autorité. Mais le texte continue et va plus loin. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus s'approche des disciples, ne les juge pas, ne les reprend pas, comme pour montrer son intimité avec eux, son amour pour eux. Essayez un instant d'imaginer la scène. Les disciples ont marché pour se rendre à ce rendez-vous en Galilée. Ils ont gravi cette colline. Ils voient Jésus qui est déjà là, on le verra parce qu'un texte nous le dit avant, qui les attend. Il les précède. Ils voient Jésus, ils se prosternent. Certainement en silence, c'est moi qui l'imagine, mais l'attention du texte nous le montre un peu, je pense. Et voilà Jésus qui s'avance vers eux. Eux qui pourtant ont fui quand il s'est fait arrêter. Jésus leur avait dit en avance ce qui allait se passer. Matthieu 26, verset 31, Jésus leur dit « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit « Je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées, mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Jésus leur avait donné rendez-vous à ce moment-là. Pas juste Pierre avait dit « Je donnerai ma vie pour toi. » Tous les disciples, nous dit Matthieu, avaient dit la même chose en suivant Pierre. Arrivé devant lui, se prosterne devant le Messie qui s'approche d'eux et qui déclare son discours d'intronisation. Le roi ressuscité est maintenant devant son peuple, qui a vaincu la mort, il a vaincu le péché, le jugement pour son peuple. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a maintenant tout pouvoir, toute autorité dans le ciel et sur la terre. Jésus, le serviteur souffrant, humilié, frappé, assassiné, à notre place est le Messie glorieux, roi du monde, sauveur de nos péchés. Il a tout enduré, n'a failli en rien, et donc tout pouvoir lui a été donné. Le texte dit bien, toute autorité m'a été donnée. C'est Dieu, le Père, qui lui a donné toute autorité. Jésus ne l'a pas prise de force par un putsch, par un coup d'État, comme Satan d'ailleurs lui proposait dans Matthieu chapitre 4. Souvenez-vous, Matthieu 4, 8, le diable en vena encore sur une très haute montagne, là où il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est à lui seul que tu rendras un culte. Écoutez bien, si vous doutez de la divinité de Jésus par exemple, vous entendez ce que Jésus vient de dire ? Je ne me prosterne pas devant toi, on n'adore que Dieu seul. On arrive sur la montagne, les disciples arrivent, se prosternent. Que fait Jésus ? Il ne dit pas, debout les gars ! Eh, debout ! Levez-vous ! Paul et ses apôtres, et les autres missionnaires, ils le faisaient. Si des gens venaient l'adorer comme un dieu, ils disaient, non, je ne suis qu'un homme. Jésus, quand ses disciples arrivent devant lui, il ne dit pas, debout les gars, levez-vous, je suis un de vous. Je suis un gars comme les autres. Je suis un disciple parmi les autres, je suis juste un bon penseur, un philosophe, quelqu'un qui a des bonnes idées, un bon... Voilà, peut-être un bon chef d'État. Non. Jésus, non seulement s'approche d'eux, ne les reprend pas, mais les regarde et dit, toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Moi, je lis ça. Je me mets là, à cette place des apôtres qui entendent cette déclaration. Et j'espère qu'on l'entend résonner encore aujourd'hui. Jésus-Christ se laisse être adoré, car il est Dieu. Il est le roi ressuscité qui est présent sur cette montagne. Dieu avec nous. Dieu est là avec nous. Il n'est pas loin au ciel. Il est là avec nous. Il foule la même terre que nous. Il est présent. Jésus non seulement accepte leur adoration, mais il la valide et il la confirme. Il est vraiment l'enfant de la promesse. Jésus a toute autorité. Son règne a commencé. Son royaume est inauguré. C'est bien le discours du roi de l'univers que l'on entend ici. Un pouvoir et une autorité bienveillante, bien sûr. Dans tout l'évangile de Matthieu, en particulier le sermon sur la montagne, quand on entend les lois du royaume, on ne peut qu'aspirer à un règne de ce roi-là. On ne peut que vouloir son autorité complète sur toute chose. On n'a pas à la craindre. Parfois, vous avez peut-être vu aussi dans des films ce genre d'histoire où il y a un mauvais chef qui arrive. Tout ce qu'il veut, c'est pour lui. Il est égoïste. Il veut un pouvoir... pour pouvoir assouvir sa soif de pouvoir et écraser les autres. Ça arrive parfois ce genre d'intrigue hein, qui nous rappelle un peu l'évangile. Et après, on voit qu'il y a un bon roi qui vit pour se donner pour les autres, qui est au combat devant son peuple, à la place de son peuple, parce qu'il est un bon roi qui veut exercer une bonne autorité. Et dans ces films, on aspire souvent à voir enfin le bon roi et on est là devant notre écran et on fait « Ouais, c'est bon, il a gagné, il a enfin remporté la victoire. » Ici, Jésus est le bon roi. Dans son royaume, je vous cite, « Heureux ceux qui sont spirituellement pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont humbles, ceux qui ont soif et faim de la justice, ceux qui témoignent de la bonté, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui sont opprimés pour la justice, ceux qui sont insultés et persécutés à cause de leur foi. » Oui, son pouvoir. Son autorité, son règne est une bonne nouvelle. Il peut vraiment nous sauver et son règne à ce Jésus n'aura jamais de fin. Laissez-moi vous demander ici, est-ce que cela vous pousse à l'adoration également ? Est-ce que cela nous pousse à vouloir nous prosterner devant ce Jésus ? À reconnaître que Jésus est le roi, le bon roi qui a toute autorité sur ma vie ? Il est le Messie qui seul peut me sauver ? Et qui m'accueille dans son royaume, il mérite toute mon adoration, il mérite ma vie entière. Devenir chrétien, disciple, ce n'est pas juste adhérer intellectuellement à une confession de foi, ce n'est pas juste de venir tous les dimanches matins à une réunion alors qu'on pourrait dormir ou aller faire un jogging. Être disciple, c'est reconnaître Jésus, le Christ, pour qui il est vraiment, et reconnaître son pouvoir, son autorité, sa royauté dans ma vie. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Est-ce que cela nous pousse aussi à écouter attentivement ce qu'il va maintenant dire aux 11 disciples ? Parce que je peux vous dire que eux, quand ils ont entendu ça, les paroles qui suivent étaient marquées d'une autorité qui était vraiment forte. Deuxièmement, la mission de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le roi les envoie dans le monde entier. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez dans le monde entier. Et jusqu'à présent, la mission de Jésus, c'était quasi exclusivement limitée au peuple d'Israël. Matthieu 10, 5, il avait dit « N'allez pas vers les païens, vers les non-juifs ». Matthieu 15, 24, Jésus lui-même dit « J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël ». Dans l'évangile de Matthieu, c'est vrai qu'on sent que cette ouverture va arriver. Dès le début, si Jésus est la promesse faite à Abraham qu'il se ferait un peuple parmi les nations, c'est bien qu'il vient à un moment donné avoir une ouverture. Dieu va se faire un peuple de toutes les nations. Il y a bien ces bergers païens qui viennent adorer Jésus dans la crèche. Le centurion romain a une foi telle que Jésus n'en a jamais vu en Israël. Jésus guérira aussi la fille de la femme cananéenne. Mais il fallait attendre que tout soit accompli. Et c'est seulement ici, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, que cette limite de l'expansion de l'Évangile est totalement levée. C'est fait, c'est accompli. Maintenant, l'Évangile peut se répandre dans le monde entier. Allez, faites de toutes les nations des disciples, toutes les nations, toutes les ethnies, tous les peuples, toutes les langues. Quelle étendue de du champ de mission de Jésus. Mais quand il envoie ses apôtres ici dans le monde entier, il est important et utile de rappeler qu'il ne s'agit pas d'occidentaux en Europe que Jésus enverrait coloniser le monde et imposer leur religion, leur politique à d'autres. Pas du tout. Ici, dans un coin perdu de la Galilée, Jésus envoie de simples hommes porteurs d'un message, pas d'asservissement, mais un message libérateur, un message d'espérance, une bonne nouvelle, le Messie est arrivé, le bon roi a vaincu pour sauver, pour pardonner, pour assurer une place dans son royaume à quiconque accepte son autorité, peu importe d'où il vient, peu importe son origine, peu importe son pays, peu importe son ethnie, peu importe son arrière-plan, Jésus s'est offert pour tous. Waouh! Cette bonne nouvelle doit donc être partagée au monde entier. Les peuples doivent savoir que le roi est arrivé, car il se fait un nouveau peuple. Il constitue l'Église, constitue des personnes de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les cultures, de toutes les ethnies. Un peuple tellement divers, vous trouvez ça dans le livre de l'Apocalypse, mais qui a une chose en commun. Il est le roi, notre roi. Faites de toutes les nations des disciples. Faire des disciples, ça veut dire quoi, un disciple? Faire des disciples ici, c'est vraiment le cœur de cet ordre de mission. D'ailleurs, Matthieu nous montre comment Jésus leur explique comment les apôtres doivent faire des disciples. Ils doivent les faire en allant dans le monde entier, en les baptisant. D'ailleurs, entre parenthèses, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on est dans un singulier qui nous montre encore la divinité de Jésus, au même plan que Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Il les baptise et les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc les apôtres sont appelés à baptiser les nouveaux disciples parce que l'acte du baptême, au travers de cet acte, le disciple, il vient déclarer, proclamer « Jésus m'a sauvé, Jésus m'a pardonné, Jésus m'a racheté, Jésus est mon roi. C'est pour lui que je vis désormais. » Donc les apôtres sont appelés à annoncer l'évangile pour que les personnes de toutes les nations puissent répondre à cet appel et se faire baptiser avec cette signification-là. Mais attention, le texte ne dit pas « Faites de toutes les nations des convertis ». Je jette un pavé dans la mare. Le texte ne dit pas « Faites de toutes les nations des paroissiens » qui viennent à l'église tous les dimanches, écoutent sagement la prédication, chantent quelques chants, donnent de l'argent, mais oublient Jésus et sa royauté le reste de la semaine. Il n'appelle pas à faire des paroissiens, mais à faire des disciples. Je donne une petite illustration d'une différence entre un paroissien et un disciple. Pour un paroissien, quand il entend l'église, il pense à un endroit. C'est Avenue des États-Unis. C'est ce bâtiment-là. Quelle belle église. Un disciple, quand il entend église, il comprend la communauté qui la constitue. Il n'y a pas de bâtiment là, non? Dans Matthieu 28, je ne sais pas. Un paroissien se préoccupe d'être fidèle. Et qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, m'habiller, pas m'habiller comme ça, faire, c'est bon, je rentre dans le cadre, je rentre dans les cases. Le disciple, il a la préoccupation de se reproduire dans d'autres. Bien sûr, il veut être fidèle à Jésus-Christ, bien sûr. Il veut chercher à vivre une vie de sainteté, c'est évident. Mais plus que cela, il veut pouvoir le témoigner à d'autres autour de lui. Il a compris cette mission qui s'investit dans les autres. Un paroissien, il vit sa foi par les réunions. Il faut être là à toutes les réunions. Ceux qui n'y sont pas, ils sont des mauvais disciples. Des mauvais paroissiens, peut-être pas toujours des mauvais disciples. Ceux qui sont sur leur lit d'hôpital pourraient peut-être en témoigner. Les réunions, ils ne peuvent plus vivre leur foi par ce moyen-là. Les disciples, ils vivent leur foi par les relations. Donc, ils vont venir aux réunions. Mais ils vont venir dans une autre attitude parce qu'ils savent que c'est pour voir l'Église qui est le peuple, la communauté, et forger des relations les uns avec les autres. Le paroissien, du coup, il voit le pasteur comme un professionnel. Bah oui, moi, la semaine, je fais mon boulot, et puis le pasteur, il fait son boulot, il prêche et tout, il a intérêt à faire ça bien. Sinon, à midi, on va tailler un peu son message. Ben, le disciple, il voit le pasteur comme un formateur qui va m'aider à apprendre à obéir à tout ce que Jésus a prescrit. Le paroissien, il se risque parfois d'être vulnérable. Ah oui, je galère un peu sur ce domaine. C'est la confession, vous savez. Hop, je le dis et c'est réglé. Le disciple, il sait que c'est plus compliqué que ça d'apprendre à obéir tout ce que Jésus a prescrit. Il se risque d'être redevable, de dire à un frère ou une sœur, ça fait des années, là, j'ai des difficultés avec ce domaine de ma vie, est-ce que tu peux prier pour moi, et puis régulièrement, et puis n'hésite pas à me demander un jour, ça va, je te donne les clés pour ce sujet, tu peux me le dire. Il y a une grande différence, Jésus appelle de faire de toutes les nations des disciples. Regardez comment il a formé ses disciples et cette communauté-là. Il nous appelle, il appelle les apôtres ici, premièrement, on verra après, à faire de même. Il ne s'agit pas ici, bien sûr, de mettre en pratique les enseignements de Jésus lorsqu'il dit « enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit » par force, par contrainte, par pression juste purement sociale ou d'un groupe pour se conformer. Jésus n'a jamais voulu juste un changement d'extérieur et d'apparence ou de comportement. Il veut notre cœur, il nous aime, il est mort sur une croix pour changer notre cœur. L'amour manifesté à la croix, est-ce qu'il vient nous changer ? Mettre en pratique ici la parole et l'enseignement de Jésus, c'est puiser dans sa grâce, on va le voir dans le dernier verset, et aussi se reposer sur son pouvoir. Il a l'autorité, il a le pouvoir, aussi dans ma vie. Il ne s'agit pas de forcer les personnes, hein, on l'a compris, à une fausse conversion, à suivre des lois, fais ci, fais pas ça, t'habilles comme ci, écoute pas cette musique. Peut-être qu'ils feront leur choix, mais ils le comprendront aussi de leur cœur. Il s'agit premièrement de voir qui est vraiment Jésus, comprendre son œuvre à la croix, comprendre qu'il a toute autorité pour nous sauver, qu'il veut nous transformer à son image, qu'il est la promesse que l'on attendait pour être sauvé, qu'il peut changer nos cœurs pour pouvoir vivre sous son règne et donc mettre en pratique les enseignements pour lui ressembler entièrement. Chacun avec notre personnalité, chacun dans son contexte de vie, mais lui ressembler dans notre caractère, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Faire des disciples ici est un ordre donné aux apôtres qui est relationnel. Il s'attache aux personnes, tout comme Jésus a passé sa vie à investir dans des personnes, à aimer, à encourager, à faire réfléchir, à enseigner, à mettre en garde, à rassurer, à être présent à leur côté, dans les bons moments et dans les mauvais, à répondre à leurs questions. J'aimerais relever ici trois éléments importants de cet ordre de mission. Le premier, faire des disciples, implique d'aller, en allant. Il y a un mouvement ici. Aller vers les autres et vivre dans ce monde sous l'autorité de Jésus. C'est avant tout un investissement dans des personnes, pas premièrement dans des programmes, des activités, des bâtiments, des réunions, bien que ces choses puissent être le véhicule par lequel la mission s'accomplit. L'objectif est premièrement relationnel. Deuxièmement, faire des disciples ne se limite pas à ce qu'on appelle dans notre jargon l'évangélisation, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas encore croyant et qui devient croyant, mais il intègre aussi de l'enseignement. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Faire des disciples inclut donc de partager la bonne nouvelle de Jésus, mais aussi de conduire les personnes à la croissance dans la maturité spirituelle, à l'image de Jésus. Cet enseignement peut aussi prendre plusieurs formes lorsqu'il parle d'enseigner-leur. Dans l'Évangile, si on regarde Jésus, ici même, juste en Matthieu, il enseigne les foules, il répond aux questions du petit groupe de disciples, on le voit enseigner par son exemple, quand il est présent dans des situations réelles de la vie, autour de repas, ou par exemple, quand il entend sur le chemin, il est avec ses disciples, ils marchent, ils font la randonnée là, entre deux villes, ils entendent les discussions entre les disciples, ils se la pètent un peu là, qui est le plus grand, moi je serai à la droite de Dieu, là-haut. Ben, ils profitent de ces moments-là de vie, pas forcément dans un truc officiel, pour montrer comment l'évangile peut changer leur manière de voir les choses et de comprendre la vie. Vous voyez, cet enseignement-là peut prendre plusieurs formes. Il s'inscrit dans les relations. Troisièmement, faire des disciples n'est pas un ordre individuel. Faites des disciples. Mais faites des disciples. Et il s'adresse premièrement ici aux 11 apôtres. Alors comment appliquer ce passage à nos vies, à nos églises? Parce que c'est vrai, et je suis d'accord, on n'est pas les 11 apôtres. On n'était pas là sur cette montagne. Il n'était pas là devant nous à nous dire cela. Mais l'église a été construite sur le fondement des apôtres. Et donc, par nature, l'église dans le monde entier poursuit, continue cette mission apostolique de faire de toutes les nations des disciples. La promesse de Jésus présente à la fin de ce texte nous dit qu'il est présent tous les jours jusqu'à, pas jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à la fin du monde. Les apôtres sont partis. Nous, l'église, sommes là. Et Jésus présent, donc la mission continue. Cette parole est pour l'Église. Premièrement, du coup, si cette mission d'aller est une mission relationnelle, d'aller dans le monde entier, ça veut dire, oui, que certains partiront de nos missionnaires, par exemple, à l'étranger, comme la famille Chiron. Certains partiront au Mali pour une mission à court terme. Mais ça veut aussi dire que nous devons tous aller ici à Toulouse, dans nos villes, et villages, près de nos proches, dans cette mission relationnelle. Pas juste en donnant aux personnes, en nous demandant de venir à des réunions, des activités, ce qui peut être chouette, je ne dis pas le contraire. Mais à nous, premièrement, d'aller porter l'évangile dans les relations de la vie de tous les jours, par notre vie, qui, je l'espère, suscitera le questionnement de nos proches. Deuxièmement, si faire des disciples ne se limite pas à l'évangélisation, on doit réfléchir comment grandir en maturité chacun d'entre nous, et nous aider les uns les autres. À nous encourager dans la foi, à lire la Bible avec d'autres. Pas juste la prédication du dimanche, mais dans des amitiés spirituelles et dans les cellules, en partageant à cœur ouvert nos luttes, nos tentations, nos échecs, nos doutes, nos questions. Il y a le droit ? Oui, oui, c'est fait pour ça. Troisièmement, si c'est un ordre collectif, nous pouvons tous y prendre part. Chacun, selon nos dons, nos capacités, notre appel. Tous ne vont pas prêcher un dimanche matin. Mais passer du temps avec mes collègues, mes voisins, les écouter, rire et pleurer avec eux. Peut-être même répondre à leurs questions sur la foi s'ils en ont. Ou s'ils s'intéressent à l'évangile, de lire avec eux autour d'un café. Ou de lire la Bible avec un autre chrétien de l'église en semaine pour grandir dans ma foi. Ou peut-être épauler un plus jeune chrétien dans la foi qui commence dans le même domaine professionnel que moi et de pouvoir lui montrer comment est-ce que j'essaye d'être un disciple dans mon domaine professionnel. J'espère qu'on voit que la foi peut être aussi concrète que ça. Nous allons terminer ici avec la fin de ce passage, et pas la moindre. Jésus termine ici avec une promesse. Il nous montre son autorité, il nous parle de sa mission, et il termine avec une promesse. Jésus nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, tout comme je me tiens devant vous, vraiment ressuscité, vraiment vivant, pour du vrai, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelle assurance face à l'immensité de cet appel missionnaire. Face à la mission d'aller dans un monde parfois hostile, parfois railleur, pour parler de Christ ressuscité qui a changé nos vies. Il dit bien, je suis avec vous. Il ne dit pas, je serai avec vous. C'est une promesse qui est déjà réalisée aujourd'hui à présent, depuis le temps des apôtres, jusqu'à encore aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde, Jésus est présent avec son peuple. Matthieu commence au chapitre 1 avec cette promesse. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jésus termine ici l'évangile de Matthieu. Je suis avec vous. Faites le lien. Jésus est Dieu. Jésus est là. Jésus est avec son peuple. Par son esprit répandu à la Pentecôte, il peut être avec nous tous les jours. Collectivement, lorsque nous sommes réunis, individuellement, quand nous sommes seuls dans notre chambre avec des doutes, quand on ne comprend pas un texte de la Bible, quand on est face à des questions d'un collègue qui sont difficiles, lorsqu'on fait face à une situation de crise dans notre vie ou à une situation de joie, Jésus est présent avec nous. Il déclare son autorité. Il nous rappelle sa promesse de sa présence. Et cela nous donne le cadre rassurant et bienveillant et motivant pour cet ordre de mission. Alors, qu'est-ce que Jésus a bien pu faire dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a bien pu dire à ses 12 disciples pour qu'ils soient prêts à donner leur vie pour répandre le message de la bonne nouvelle de Jésus et pour que jusqu'à aujourd'hui, nous continuions à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Eh bien, Jésus a tout accompli. Jésus, par sa vie parfaite, sa mort, sa résurrection, a montré et prouvé qu'il est le roi, le sauveur du monde, le Messie. Et c'est basé sur la confiance dans son autorité et en puisant les forces dans sa présence que les apôtres ont pu le suivre et faire des disciples. Cet ordre de mission a ensuite continué sur cette même base par l'Église au travers des siècles, même s'il y a eu des hauts et des bas. On voit dans ce texte un pouvoir déjà acquis, une promesse déjà valide, mais n'oublions pas non plus qu'il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Ces promesses sont commencées, mais elles ne sont pas entièrement réalisées. Il est avec nous, un jour nous serons devant lui. Un jour, son royaume sera complet. Un jour, tout genou fléchira devant son autorité et la reconnaîtra. Cela nous pointe vers l'attente de ce jour où la royauté de Jésus sera reconnue, non seulement dans le monde entier, mais dans l'univers entier. Et jusqu'à ce jour-là, jusqu'à son retour, jusqu'à la fin du monde, nous voulons continuer cette mission de faire de toutes les nations des disciples. Prenons un instant maintenant pour nous poser chacun cette question individuellement. Posons-nous-la aussi collectivement, en église, dans nos groupes de service ou de ministère. Comment allons-nous répondre à son appel en mission? Je vais prier et ensuite, on va pouvoir chanter un chant de déclaration basé sur ce texte que nous venons de lire. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha de lui et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci Seigneur pour cette réalité de ton autorité. Nous attendions, même peut-être sans le savoir, nous aspirions à ta royauté, car tu es le seul à pouvoir sauver ton peuple de ses péchés. Et Seigneur, merci parce que par la croix et ta résurrection, nous sommes inclus dans ton peuple. Nous sommes au bénéfice de ton œuvre à la croix. Merci parce que nous sommes aussi au bénéfice de cette promesse de ta présence par le Saint-Esprit. Seigneur, nous prions que chacun d'entre nous ce matin puissions nous prosterner devant toi, reconnaître que tu es le sauveur de nos vies, mais aussi reconnaître que tu peux être le sauveur du monde, que nous pouvons le proclamer à d'autres, le partager à d'autres, le discuter avec d'autres. Et nous t'en supplions, Seigneur, que ton règne vienne. Amen.